les habitants du Mont d'Orsune, toujours dépendants des navettes maritimes, un service qui devrait s'étoffer. L'État au chevet des entrepreneurs, la conseillère de Bruno Le Maire a rencontré une dizaine de chefs d'entreprise impactés par les émeutes à Nimbo. Justice, trois hommes comparaissent devant le tribunal correctionnel, dont l'un pour violence sur gendarme. La justice poursuit son traitement des émeutes. En métropole, l'imam de Pessac arrêté, il devrait être expulsé vers son pays d'origine, le Niger. Son avocat a saisi la justice. Dans la page sport, les Jeux Olympiques, bien sûr, avec trois nouvelles médailles françaises, dont une en or en cyclisme sur piste. Et puis nous reviendrons sur l'ambiance de ces Jeux Olympiques et sur les performances de Teni Riner. Son manager calédonien Laurent Caléja sera dans ce studio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Avant de développer ces titres, un coup d'œil sur le magazine Transparence que l'on retrouvera dès la fin de cette édition. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Jean-François.
Et votre invité sera aujourd'hui Harold Martin.
Harold Martin, signataire de l'accord de Nouméa. Il sera interrogé sur le bilan qu'il reste de la situation de la Nouvelle-Calédonie près de trois mois après le début de l'insurrection et puis sur son analyse de la situation. Est-ce que l'accord de Nouméa dont il est signataire est en cause dans le déclenchement des émeutes? Quelles sont les solutions qu'il préconise pour sortir de la crise? Il sera également interrogé sur les différentes déclarations et prises de position politique des dernières semaines ou des derniers jours. On se retrouve donc d'ici une demi-heure en compagnie d'Harold Martin.
Et à 16h45, on vous retrouvera pour le club politique Radio Rythme Bleu.
Au sommaire du club, comme d'habitude maintenant, un point de la situation sur le terrain et puis une réflexion. Trois mois après le 13 mai, quel bilan peut-on faire et comment expliquer ce mouvement? Nous analyserons également les prises de position au travers de communiqués de la CCAT ou de la commission exécutive de l'Union calédonienne. Nous parlerons également du cas de Michael Forrest, dont la démission est réclamée par certains. Et enfin, nous nous intéresserons aux Jeux Olympiques de Paris pour savoir s'ils constituent une parenthèse enchantée pour la métropole. Début à 16h45 pour ce club politique qui sera rediffusé demain matin à partir de 11h.
Direction le Mont d'Orsune pour ouvrir ce journal. On retrouve sur place notre envoyé spécial Nicolas Legrand. Auprès des habitants, Nicolas, qui parle beaucoup des navettes maritimes.
Oui, c'est évidemment un soulagement pour les habitants du sud Mont d'Or. Chaque matin, maintenant, depuis près de trois mois, ils doivent faire la queue avant d'embarquer sur les navettes en direction de Nouméa. Une attente parfois interminable, si bien que certains ont totalement réorganisé leur vie en décidant de vivre sur Nouméa la semaine et de ne rentrer que le week-end sur le Vallon d'Or. Cette annonce du renforcement du dispositif de transport maritime avec des moyens supplémentaires devrait donc permettre de fluidifier le trafic. Une satisfaction pour Florent Perrin, le président de l'association Citoyen Mondorien, même si pour lui la priorité reste le dégagement de la RP1 à Saint-Louis pour désenclaver totalement le Mont d'Or Sud. Un message qu'il avait d'ailleurs fait passer vendredi dernier au cabinet de la ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenoux.
C'est toutes les remontées qu'on avait fait lorsqu'on avait rencontré le cabinet de la ministre. Donc il y avait plusieurs points. Donc ça c'est le point 2, c'est pouvoir nous permettre d'améliorer le système des navettes. Normalement d'ici la semaine prochaine, voire la rentrée, on aura plus de marge de manœuvre pour les Mondoriens pour aller au travail, notamment le matin. C'est super pour nous et on ne peut qu'apprécier ce qui est mis en place. Les ferries c'est aussi une bonne chose, ça nous crée une alternative en attendant le viaduc. Donc oui c'est bien, enfin le Mont d'Or est pris en compte. C'est surtout ça qui est important. Par contre, nous, ce qui nous intéresse au premier chef, c'est le point 1, c'est la libération de la route. Donc ça, c'est ce qu'on attend tous avec impatience. Maintenant, il faut libérer la route. Et puis, on avait le point 3 qui est encore le point 1+, c'est donc le viaduc. Donc on attend aussi que l'État nous fasse des annonces sur ce sujet.
Et hier, dans un communiqué, l'État annonçait avoir renforcé son contrôle de la RP1. L'axe est toujours bloqué à Saint-Louis, mais les forces de l'ordre procèdent à de nombreux contrôles afin d'arrêter les malfaiteurs et permettre la libération de la route. Au Mont d'Or Sud, Nicolas Legrand, RRB.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour pour désenclaver le Mont d'Or Sud à moyen et long terme. Êtes-vous favorable à la construction d'un viaduc ou préférez-vous la mise en place d'un ferry? Si vous êtes favorable à un viaduc, vous tapez 1. Si vous préférez le ferry, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31-46. La réponse à notre question d'hier, 99% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS estiment que Michael Forrest doit démissionner du gouvernement. Ils ne sont que 1% à être d'un avis contraire. La suite du traitement judiciaire des émeutes et trois individus comparaissent ce matin devant le tribunal correctionnel. L'un pour violence sur gendarme, les deux autres pour préparation d'actes de violence. Sur place, on retrouve Isabelle Pelletier.
Oui, le principal prévenu, né en 1975 et originaire de la tribu de Ndé Apaïta, comparé principalement pour des violences volontaires et répétées commises entre le 13 mai et le 26 juin 2024 sur des gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions, avec une carabine, des bombes d'artifice pyrotechnique volées dans un conteneur maritime et des cocktails Molotov. Les deux autres prévenus sont poursuivis notamment pour groupement en vue de préparer des actes de violence et entraves à la circulation, principalement par le fait de barrages ou de pneus enflammés. Les suspects avaient été placés sur écoute téléphonique. L'enquête et les perquisitions ont permis de retrouver les différentes armes et munitions utilisées. Les écoutes ont également fait ressortir que le principal prévenu avait visé les gendarmes dans des véhicules blindés à l'aide d'une carabine à lunettes, centralisait les informations sur les trajets des militaires et donnait des ordres de tir sur les drones de la gendarmerie et les pneus des blindés. Le procès a démarré il y a une demi-heure, à 11h, dans une salle entièrement remplie des soutiens des trois prévenus. La première déclaration du principal prévenu a été, je cite, que ses actions relevaient d'un engagement politique et qu'il n'était pas un terroriste. Fin de citation. À noter qu'auparavant, une audience concernant un carjacking commis devant le MK2 de Dimbéa sur une famille s'est tenue juste avant ce procès. Donc, cinq individus avaient bloqué le véhicule où se trouvaient deux trentenaires et leurs enfants de 6 et 7 ans ont vu de le voler pour, je cite, transporter du bois pour les barrages. Le père de famille a été frappé devant ses enfants qui, lors des auditions, se sont révélés profondément traumatisés. Le procès a été renvoyé, le prévenu en cours jusqu'à 20 ans de prison. Depuis le palais de justice, Isabelle Pelletier, Radio Rythme Bleu.
Merci Isabelle, il est 11h37. Dans un instant, la suite de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB. En panne de cash, marre du chèque, optez pour le portefeuille électronique CFP. Particulier, échangez de l'argent, remboursez vos amis, payez chez vos commerçants affiliés sans aucun frais. Simple, instantané, sécurisé et 100% gratuit. Commerçant, encaissez à moindre coût depuis votre mobile ou tablette et sans engagement. Si vous n'utilisez pas l'application, elle ne vous coûte rien. CFP, le portefeuille électronique qui vous simplifie la vie, sans frais. Rendez-vous sur www.cfp.nc pour plus d'infos et télécharger l'appli.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Depuis une semaine, la conseillère du ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire, Claire Durieux, est présente en Nouvelle-Calédonie. À côté des dispositifs de soutien déjà mis en place par l'État et qui ont évolué à plusieurs reprises déjà, Claire Durieux a souhaité rencontrer ce matin, Gilles Ménage, des chefs d'entreprise impactés par les émeutes.
Direction Nimbo ce matin pour la conseillère de Bruno Le Maire qui avait rendez-vous avec une dizaine de chefs d'entreprise qui ont souffert de l'insurrection à des degrés divers. D'ailleurs, certains ont tout perdu, d'autres ont vu leur chiffre d'affaires réduit considérablement, voire totalement. D'autres encore ont été contraints de licencier leur personnel ou d'avoir recours au chômage partiel. Claire Durieux, qui était accompagnée ce matin pour cette rencontre par Christopher Gigès, membre du gouvernement, qui voit dans cette visite de terrain un signe de plus de l'engagement de l'État.
C'est vraiment un signe très fort de la présence de l'État pour être à nos côtés et être aux côtés des entreprises. Donc c'est important de pouvoir échanger avec elles et avec des entrepreneurs pour voir qu'est-ce qu'ils ont besoin pour la suite.
Et ça permet aussi peut-être d'ajuster un certain nombre de mesures prises par l'État.
Oui, c'est exactement ça. On est dans l'amélioration permanente et en lien permanent avec l'État pour faire évoluer les dispositifs, pour poursuivre le dispositif de chômage partiel, notamment sur son financement, mais aussi faire évoluer la partie fonds de solidarité de l'État pour qu'il soit plus simple, qu'il puisse bénéficier plus largement aux entreprises. L'État est là pour nous accompagner, mais ensuite il faut qu'on soit aussi au rendez-vous. On a des réformes à faire, on a des mesures de soutien à mettre en place et c'est bien ce qu'on souhaite mettre en place avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. On a un nouveau modèle économique à construire et on doit le construire avec l'État, les acteurs politiques et la société civile.
Est-ce que c'est possible dans le contexte politique actuel ?
C'est nécessaire. Je considère qu'aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie avancera si on est en capacité d'avancer à la fois sur l'institutionnel, sur le sécuritaire, parce qu'il faut rétablir l'ordre en Nouvelle-Calédonie, mais également sur l'économique et social. Je crois que les entreprises veulent savoir dans quel cadre ils s'inscrivent et le sécuritaire, l'institutionnel et l'économique participera à la refondation et à la reconstruction de la Calédonie.
Le rendez-vous de ce matin avait lieu au sein de l'entreprise Soco Metal à Nimbo. Cette entreprise de chaudronnerie qui travaille en très grande partie pour l'industrie du nickel a perdu évidemment une très grande partie de son chiffre d'affaires en raison notamment de l'arrêt de l'activité de l'usine du Sud et la fermeture annoncée de celle du Nord. Et pour la gérante de l'entreprise, Barbara Vlamin, qui a dû mettre ses salariés en chômage partiel, la visite de la conseillère du ministre est évidemment utile.
On a eu quelques vols, mais insignifiants par rapport à tout ce que certains collègues ont souffert. Mais nous, ce qui nous impacte maintenant, c'est l'effondrement global de l'économie. Et c'est surtout les blocages de tous les sites miniers et des usines métallurgiques. C'est ça qui nous impacte énormément, puisque nous sommes très dédiés à ces activités pour à peu près 60% de notre chiffre d'affaires. Il y a actuellement un fonds de solidarité de l'État qui nous fait une année de référence en 2022, qui n'est pas forcément la bonne année de référence, et pour lesquelles on n'est pas éligible, alors qu'en fait, on souffre quand même énormément. Donc c'est important de remonter ces informations pour que l'État puisse adapter justement le mécanisme d'attribution de ces aides.
La conseillère de Bruno Le Maire est en liaison permanente avec les acteurs économiques du territoire depuis le 13 mai. Mais pour Claire Durieux, rien ne remplace une visite de terrain.
C'était important pour le ministre et l'État d'être aux côtés de l'économie. Et c'était important aussi d'être aux côtés des entrepreneurs, des femmes et des hommes qui ont été, à titre personnel et professionnel, très affectés par ce qui s'est passé. Et donc le fait que je sois en Nouvelle-Calédonie et puis ici, sur le terrain, pour les écouter, les encourager aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de courage en Nouvelle-Calédonie. C'était très important. Depuis le début de la crise, je tiens chaque semaine une réunion en visio avec toutes les fédérations économiques de Nouvelle-Calédonie. Donc en fait, chaque semaine, on a pu échanger sur les dispositifs, leurs difficultés depuis le début de la crise et ajuster en temps réel les dispositifs. Donc on a fait déjà évoluer plusieurs fois depuis le début de la crise les dispositifs pour répondre à leurs attentes. Mais rien ne remplace le fait de venir, d'échanger en direct, de voir aussi directement la situation, c'est très utile de venir et de les entendre. On sent une envie de repartir, une envie de continuer. Et ce qui est certain, c'est que l'État est là et sera là pour faire tout ce qu'il peut pour contribuer à ce que ça reparte et que l'économie de Nouvelle-Calédonie sorte de la crise.
Claire Durieux, conseillère de Bruno Le Maire, qui a ensuite longuement rencontré les chefs d'entreprise présents ce matin à Nimbeau, avec des enseignements sans doute précieux pour évaluer les besoins à court et à long terme de l'économie calédonienne.
La Journée internationale des peuples autochtones est célébrée le 9 août et elle est relayée sur le territoire par le Comité 150 ans. Un rassemblement en présence du Conseil national des chefs, Inat Nekanaki, des différentes aires coutumières, de la CCAT ou encore du MOI. Au programme jusqu'à 17h, 4 ateliers d'échange et de partage. Les précisions de Victor Goni, le président du Sénat coutumier.
C'est vrai que jusque-là, bon, cette journée, elle est toujours marquée. Il y a toujours une programmation qui est faite sur ça. Et c'est vrai que là, on était un peu pris de court avec la situation actuelle du pays. On est quand même présent pour la journée. Dans le droit du peuple autochtone, soutien au peuple autochtone, c'est un peu le levier qu'il faut actionner, qu'on n'a pas cessé d'actionner depuis jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qui va apporter un peu notre voix au niveau national, mais aussi surtout au niveau international. Donc c'est des leviers qui peuvent compter et que nous, ici, on peut s'appuyer pour pouvoir porter nos revendications pour arriver, je pense, à ce sur quoi on tend, donc c'est-à-dire souveraineté du pays, quoi.
Une journée internationale des peuples autochtones qui a commencé par des gestes coutumiers. Le thème cette année, c'est protéger les droits des peuples autochtones en situation d'isolement volontaire ou de contact initial. Un mot sur les vacances scolaires qui nous emmène à l'IFOOD ce midi avec cette caravane des loisirs qui va à la rencontre des enfants des tribus pour proposer des activités pendant ces vacances. Au mois de juin, la caravane s'était rendue dans 22 tribus. 445 enfants avaient pu participer aux activités. Au programme, 6 ateliers encadrés par un référent dans chaque tribu. Clara Waxier est animatrice socio-éducative à l'IFOOD.
Pour le mois d'août, nous avons des activités numériques sur tout ce qui est danger des écrans. Nous avons initiation à tout ce qui est sport de combat. Nous avons un atelier vélo, un grand jeu intellectuel, un grand jeu sportif et nous avons des activités nautiques à la base de voile. Un référent d'une tribu vient récupérer une fiche d'inscription au service. Ensuite, il retourne en tribu, il fait de la communication au sein de la tribu. Il inscrit les enfants, nom, prénom, autorisation parentale avec signature sur la fiche et autorisation droit à l'image sur la fiche toujours. Et dès qu'il a au moins plus de 10 inscriptions, il nous informe que voilà, tel jour, il sera disponible pour accueillir la caravane des loisirs. Parce que nous, on vient juste pour proposer l'activité et sur place, c'est à la tribu, aux référents, d'organiser l'accueil des enfants, parce que nous, on ne connaît pas forcément le prénom des enfants et on vient juste pour 2 ou 3 heures d'activité.
Les activités sont gratuites, elles sont ouvertes aux enfants âgés de 3 à 15 ans. Vous pouvez obtenir des informations au 45 52 03. 11h, bientôt 46, dans un instant, l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Vous êtes un professionnel hyper exigeant sur la qualité de vos outils de travail ? Venez essayer l'Opel Combo Cargo, l'utilitaire compact de conception allemande. Robustesse, volume utile, polyvalence et connectivité, le Combo Cargo a tout pour se rendre indispensable. En ce moment, l'Opel Combo Cargo est disponible à partir de seulement 1 395 000 francs hors TGC. Alors pourquoi priver votre entreprise de l'excellence allemande ? Pour profiter de cette offre en défisque, rendez-vous chez Opel au village automobile ou chez NC Motors à Koné. Offre valable jusqu'au 25 août 2024, réservée aux professionnels. Éligible au dispositif d'aide Lodéum sous réserve d'acceptation du dossier par le cabinet Interinvest et dans la limite des stocks disponibles. Plus d'informations et conditions en concession ou sur opel.nc.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Infomag, on retrouve Jean-François Baudin.
L'actualité en métropole et l'imam de Pessac en Gironde a été arrêté. Il devrait être expulsé. Décision des autorités françaises alors que cette mosquée est considérée comme étant proche des salafistes, l'une des mouvances extrémistes de l'islam. Comme souvent dans ce type d'affaires, la justice est saisie car le cas d'Abdourahmane Ridouane fait débat. Guillaume Dreschler pour Europe 1.
Abdourahmane Ridouane a été interpellé à 6h30 ce jeudi matin chez lui à Bordeaux. Son domicile a été perquisitionné. Il y était assigné à résidence pendant la période des Jeux Olympiques. Son avocat, Maître Séphène Guesguès, dénonce une manœuvre scandaleuse. Il déplore une nouvelle procédure qui s'assoit sur l'avis du tribunal judiciaire, la commission d'expulsion qui avait donné un avis défavorable, et sur la décision du tribunal administratif de Bordeaux qui avait demandé de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Selon une source proche du dossier à Europe 1, l'arrestation de Abdourahmane Ridouane fait suite à un arrêté ministériel en vue d'une expulsion vers le Niger, son pays d'origine. Il est reproché à l'imam de Pessac de propager des idées salafistes au sein de son lieu de culte et d'utiliser ses réseaux sociaux pour partager sans contexte des publications contraires aux valeurs de la France, antisémites, pro-Hamas et faisant l'apologie du terrorisme en valorisant le djihad. En 2022, la mosquée de Pessac avait déjà été fermée en raison de publications sur les réseaux sociaux. Une fermeture annulée alors par le tribunal administratif de Bordeaux et le Conseil d'État.
L'avocat de l'imam de Pessac a déposé un recours en urgence contre cette expulsion. Il sera examiné la nuit prochaine pour nous par la Cour administrative de Paris. L'islam radical toujours et ce bain de sang évité en Autriche. C'est ce que dit en tout cas la police du pays après l'arrestation de 2 jeunes. Ils projetaient un attentat suicide lors de l'un des 3 concerts que devait donner la star américaine Taylor Swift. Le principal suspect, âgé de 19 ans, est un Autrichien d'origine macédonienne qui se serait rapproché de l'État islamique auquel il aurait porté allégeance. Lors de sa garde à vue, il a confirmé qu'il comptait passer à l'acte, a indiqué le ministre autrichien de l'Intérieur.
Il a fait savoir qu'il voulait commettre un attentat en utilisant des explosifs et des armes blanches. Nous avons également saisi ses armes et il a envisagé les 2 types d'armes. Son objectif était soit aujourd'hui, soit demain, lors du concert, de se tuer et de tuer un grand nombre de personnes.
Un autre suspect de 17 ans a également été interpellé. Il travaillait pour une société impliquée dans l'organisation des concerts de Taylor Swift, qui ont tous les 3 été annulés. Dans le reste de l'actualité à l'étranger, en bref, au Proche-Orient, Yahya Sinwar est un homme en sursis. C'est ce qu'affirme l'armée israélienne, qui recherche activement le nouveau chef du Hamas, désigné par le mouvement terroriste pour prendre la suite d'Ismaël Haniyeh. Selon les Israéliens, Yahya Sinwar est le cerveau du programme du 7 octobre dernier. Il a passé 23 ans dans les prisons israéliennes. Il avait été libéré en échange du soldat franco-israélien Gilad Shalit, détenu 5 ans par le Hamas. Sinwar serait actuellement enterré dans les tunnels sous la ville de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza. Et il n'est plus apparu en public depuis le 7 octobre. Et puis l'actualité à l'étranger, c'est aussi cette apparition surprise à Barcelone du leader indépendantiste Carles Puigdemont, en exil depuis 7 ans après le référendum interdit sur l'indépendance et toujours visé par un mandat d'arrêt. L'ancien président de la région a tenu un discours en plein cœur de la ville. Avant de prendre la fuite en voiture à contresens, deux membres de la police catalane ont été interpellés pour leur possible complicité dans cette évasion. Mais Puch de Montt reste pour l'instant introuvable. Il est 11h50. Dans un instant, le sport avec les Jeux Olympiques et un invité, le manager de Teddy Riner, Laurent Caléja, qui rentre tout juste de Paris. Il est avec nous dans ce studio.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Jusqu'au 30 septembre, avec Canal+, à vous le cinéma ultra récent. À seulement 5000 francs par mois pendant 6 ou 12 mois. Wonka, le dernier Jaguar, 57 secondes, Sound of Freedom. Le meilleur du cinéma et toutes les chaînes Canal+, à seulement 5000 francs par mois pendant 6 ou 12 mois. Rendez-vous dans vos boutiques Canal+. Jusqu'au 30 septembre, pour tout nouvel abonnement de 12 ou 24 mois, à partir de la formule Sélection Plus, bénéficiez pendant 6 ou 12 mois du tarif unique de 5000 francs par mois. Le mois en cours est offert. Offre soumise à condition. Plus d'informations sur canalplus-calédonie.com. RRB, le hit.
Salut, c'est Marion. Je vous donne deux rendez-vous chaque week-end, le Hit Pacifique et le Hit International. Alors, pour connaître les prochains classements, samedi et dimanche, branchez-vous sur RRB.
Écoutez le Hit RRB Pacifique le samedi matin à 9h et le dimanche à 15h30 sur Radio Rythme Bleu.
Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, RRB raconte une histoire aux tout petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dôme, la boutique des tout petits. Petit Dôme, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dôme, on n'hésite plus, on y va.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'Infomag avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et on parle bien sûr des JO.
Les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Les Jeux Olympiques de Paris, on va en parler dans cette page sport largement. On va évidemment revenir sur les nouvelles médailles pour la délégation française la nuit dernière. Mais nous sommes aussi avec Laurent Caléja, le manager de Teddy Riner, qui nous fait l'amitié de passer dans ce studio à peine arrivé de métropole. Bonjour.
Bonjour.
Merci de passer par les studios de Radio Rythme Bleu. On va revenir tout à l'heure, Laurent Caléja, avec vous sur la performance de Teddy Riner et de l'équipe de France de judo. Mais avant cela, peut-être un mot sur cette ambiance des Jeux Olympiques, parce que vous avez été plongé au cœur du chaudron, si j'ose dire. De loin, on a l'impression que ces Jeux Olympiques suscitent un engouement absolument exceptionnel, que dans toutes les salles, il y a une ambiance extraordinaire.
En fait, déjà, la France a mis la barre haute en faisant déjà l'ouverture des Jeux sur la Seine, qui a été un gros pari, et pari réussi, en plus sous la pluie. Donc ça a été juste incroyable. On a vu que la France était capable d'organiser des événements mondiaux comme ça, donc ça, c'était super. Et puis après, derrière, tous les sites autour de la Tour Eiffel, de l'Arc de Triomphe, enfin partout, tous les sites majestueux à Paris ont été la cible de plein de médailles olympiques, et ça, c'était super important. Et même quand on regarde les Jeux à la télé, on se dit waouh, c'est un truc franchement à vie, c'est juste magnifique. En plus, il fait super beau, donc c'est
tout va bien, quoi.
Ouais, tout va bien.
Et le public français, extraordinaire.
Ouais, génial, parce que alors moi, j'ai vécu que le judo, hein, parce que j'étais concentré sur
Teddy. C'était chaud quand même dans la salle.
Ouais. Et puis surtout, il y a pas de huée sur n'importe qui, quoi. Donc même quand les Français perdent, ça applaudit. Donc franchement, c'est super. C'est un beau public.
Et vous pensez que c'est important pour les athlètes de vivre cette compétition dans cette ambiance à domicile?
Ah bah c'est plus qu'important, parce qu'depuis 4 jours, on a battu le record des médailles. On était à plus de 43 médailles il y a 4 jours. Donc que forcément, les Jeux à la maison, ça a un impact, et ça a un impact sur le mental des athlètes. Et quand tu as ta famille dans la tribune, c'est pas pareil que si tu es tout seul, quoi.
Alors, on va revenir évidemment sur les performances de Teddy Riner et de l'équipe de France de judo. Mais avant cela, on va quand même regarder les nouvelles médailles qui sont tombées cette nuit dans l'escarcelle de l'équipe de France. 3 nouvelles médailles, dont une en or, notamment pour la délégation française, Léo Fichou.
Et oui, en cyclisme sur piste, Benjamin Thomas a décroché l'or sur l'Omnium, une combinaison de 4 épreuves qui se déroule en seulement quelques heures. Malgré une chute à 25 tours de l'arrivée sur la dernière épreuve, le Français est revenu dans la course et a gagné sa bataille face au Portugais Yuri Leitao et au Belge Fabio Van Den Bosch. On l'écoute.
Les planètes étaient alignées, il pouvait rien m'arriver. Honnêtement, à la fin, j'avais plus mal au bras à cause de la blessure qu'aux jambes. J'ai tout connu sur la piste, des défaites, des victoires. Et c'est pour ça, pour aujourd'hui. J'y croyais pas, je partais pour faire un podium. Je voulais pas me mettre à la pression de la médaille d'or parce que c'était le meilleur moyen d'échouer. Et voilà, après la course, on s'est retrouvé dans un duel à 3 et voilà, ce qui a fait la différence, c'est vraiment le public parce que enfin, ça a éteint les autres et moi j'ai démultiplié, j'étais en feu quoi. Ça fait du bien, ça fait du bien, on est chez nous.
Benjamin Thomas, médaillé d'or en cyclisme sur piste sur l'Omnium. Autre médaille décrochée cette nuit, de l'argent en kitesurf féminin pour Lauriane Nolo, mais aussi pour Bilal Benama en boxe dans la catégorie des moins de 51 kilos. En revanche, pas de médaille pour notre Calédonien Bassa Mawem, qualifié pour la phase finale de l'escalade de vitesse. Il a malheureusement perdu en quart de finale contre Vedric Leonardo, l'Indonésien sacré quelques minutes plus tard champion olympique de la discipline.
Et avec tout ça, la France continue son beau parcours au classement des médailles.
La délégation française est quatrième. Elle compte désormais 54 podiums, 14 médailles d'or, 19 en argent et 21 en bronze. Les États-Unis sont toujours en tête devant la Chine et l'Australie. La Grande-Bretagne complète le top 5 et à 3 jours de la fin de ces Jeux Olympiques, le bilan est plus que positif pour Claude Onesta, manager général de la haute performance.
Oui, il l'est. On a fait 33 médailles à Tokyo il y a 3 ans et on va être à 60, je pense, autour de 60 à Paris. Donc c'est une réussite exceptionnelle. Je ne fais pas de pronostic, j'essaie de rentabiliser tous les potentiels. Il nous manque un peu d'or parce qu'on est exigeant et qu'on n'est jamais rassasié. Mais je pense que déjà, globalement, ça sera une réussite exceptionnelle. Mais ne nous relâchons pas, il reste 3 jours. Allons chercher tout ce qui est encore à prendre.
Claude Onesta, manager général de la haute performance.
60 de médailles, un objectif réalisable, Léo, puisque cette nuit, les sports collectifs ont déjà assuré 2 médailles de plus.
En handball féminin, d'abord, les Françaises se sont qualifiées pour la finale du tournoi olympique. Elles ont battu la Suède 31-28 après prolongation. Dans la nuit de samedi à dimanche, à minuit, heure de Nouméa, elles affronteront en finale la Norvège. En basket également, mais chez les hommes, cette fois, les tricolores ont battu les Allemands, champions du monde en titre cette nuit. Une victoire 73-69. La France sera donc au rendez-vous de la finale des Jeux Olympiques pour la 2e fois consécutive. On écoute les joueurs français Nicolas Batum, Isaiah Cordigné, Rudy Gobert et Andrew Albissu à l'issue de la rencontre.
Le public extraordinaire, les joueurs extraordinaires, le staff extraordinaire, grand match de basket. Ça va rester longtemps, mais il y a encore un joueur quand même.
C'est unique, c'est spécial. C'est une chance dans une vie.
C'est un rêve depuis tout petit de jouer une finale de Jeux Olympiques chez nous en France. Et là, on y est. Maintenant, il nous reste une marche à franchir, la plus haute, la plus dure. Et on va se préparer pour ça.
Merci au public qui nous pousse, qui nous donne cette énergie incroyable. Et putain, ça fait du bien de jouer à la maison.
En finale, dimanche matin, à 6h30 de Nouméa, l'équipe de France affrontera les États-Unis. Et cette fois, pas question d'argent pour les Bleus, qui avaient perdu en 2021 à Tokyo contre cette même équipe. Cette année, ils visent l'or.
Voilà, nous sommes donc avec Laurent Caléja, le manager calédonien de Teddy Riner, qui a brillé lors de ces Jeux Olympiques. 2 médailles d'or, hein, on le rappelle, une en individuel et une par équipe. Ce sont des médailles qui, pour lui, ont la même valeur, Laurent Caléja.
Ah, je pense que la médaille à l'individuel, elle a un petit peu plus de valeur parce qu'on est allé, on a échoué à Tokyo, donc ça a été compliqué d'être troisième. Alors même si t'es troisième au jeu, c'est quand même génial, mais là, ça a été compliqué. Et à 35 ans, d'aller chercher une médaille d'or et à Paris, ça a une autre saveur. La saveur par équipe, elle est géniale, mais c'est quand même pas pareil.
Alors ce titre en individuel, il le prépare depuis 3 ans. Hein. On l'a rappelé, on se rappelle que les JO avaient été décalés pour cause de Covid. Il avait une certaine pression quand même en se disant finalement qu'il pouvait à nouveau échouer. Il dégage une certaine sérénité quand même quand on le voit.
Oui, quand on le voit, il dégage une certaine sérénité parce qu'en fait, il est prêt. Il est prêt, il est impassible et tout. Sauf que la matinée qu'on a passée, en fait, pour rappel, il y a eu 2 matchs le matin et 2 matchs l'après-midi pour être champion olympique individuel. Et la matinée qu'on a passée a été compliquée psychologiquement quand même. Il n'était pas dans son assiette. C'était pas Teddy qu'on connaissait d'habitude, avec une pression énorme à la maison. Donc il a fallu gérer cette matinée-là et l'après-midi, après, ça a déroulé.
Il est toujours entouré par une petite équipe hein, dont vous faites partie de 6 personnes. Ce petit groupe, c'est là pour le rassurer, l'aider, l'accompagner dans tous les moments.
Oui, plus que ça déjà, ils sont là pour chacun son rôle, hein, autant du préparateur mental que physique, que judo, que technique, que tactique, que tout ça, donc tout le monde a son rôle dans cette équipe, qui est une très petite équipe, et souvent avec des gens qui sont là depuis très longtemps, donc oui, c'est des gens qui l'accompagnent dans les bons et les mauvais moments.
Ouais. Quel impact il a, Teddy Riner, sur l'équipe de France de judo, qui a été pas mal renouvelée quand même ces derniers temps, avec des judokas qui arrivent au plus haut niveau, avec Clarisse Agbenenou, qui est aussi l'autre ancienne, ils ont un petit rôle important quand même.
Oui, Teddy a un rôle de grand frère, de papa, de tout ce qu'on peut avoir dans ces conditions-là. C'est quelqu'un qui est multimédaillé, qui a une grosse expérience. Et quand, quand c'est quelqu'un, cette personne-là donne l'exemple sur le tapis, forcément les mômes derrière, ils sont à 300%.
Alors Teddy, qui n'a pas fini avec la compétition, visiblement, hein, il a annoncé qu'il serait au JO 2028 à Los Angeles. Comment vous allez préparer tout ça avec lui? Alors, il va falloir souffler un peu, j'imagine.
Oui, je vais prendre quelques semaines déjà ici au pays pour me reposer un peu. Et puis après, je vais déjà écrire le bilan de ce qui s'est passé depuis 3 ans. Et puis surtout proposer un renouveau pour les 4 prochaines années, découpé en 2 ans plus 2 ans. Et moi, je vais proposer à Teddy une organisation. Et Teddy, il mettra les acteurs qu'il veut à l'intérieur. Donc voilà, donc je sais pas ce qu'il en est. On sait qu'il va aller jusqu'en 2028. Comment je vais le faire et avec qui il décidera lui.
Mais vous avez toujours envie de l'accompagner parce que ça fait 15 ans que vous êtes à ses côtés. Il y a encore des objectifs visiblement très importants pour lui. Vous avez envie aussi de poursuivre cette aventure?
Oui, je pense que... Alors, je ne sais pas encore. Il faut que j'en discute avec mon entourage. Mais en même temps, c'est des choses qui ne se refusent pas. Parce que c'est... Voilà. Mais en même temps, oui, quand on fait le bilan, j'aurais passé 20 ans auprès de lui. Alors, c'est beaucoup de temps passé. C'est beaucoup d'abnégation sur plein de choses. Mais ouais, c'est des choses qui se refusent pas. Et puis c'est quelqu'un qui est déjà rentré dans l'histoire, qui va encore remarquer l'histoire dans 4 ans. Enfin, j'espère pour lui, j'espère pour nous, j'espère pour la France, mais c'est d'accompagner l'athlète de tous les temps, c'est quand même juste un truc incroyable, quoi.
Alors, qu'est-ce qui est le plus compliqué pour l'accompagner? C'est de l'aider à garder sa motivation, visiblement il l'a, c'est de l'aider dans une phase où il n'a plus 20 ans, comme c'était avant. Qu'est-ce qui est le plus compliqué aujourd'hui, dans ces 4 ans qui arrivent, si vous devez encore continuer avec lui?
Ouais, je pense que le plus compliqué, c'est de lui donner envie d'avoir envie tous les matins. Donc ça, c'est important. Et puis surtout, ce qui est très, très compliqué au-delà de ça, c'est que c'est quelqu'un qui évolue très vite dans tous les aspects de sa vie, que ce soit familial, que business, que judo, que plein de choses. Et il faut aller au même rythme que lui. Et ça c'est pour moi, c'est le plus compliqué, c'est qu'il évolue très vite et il faut évoluer avec lui. Il faut faire évoluer les personnes autour de lui aussi vite que lui. Et ça, c'est pas facile.
Est-ce que Teddy Riner, enfin on le sait aujourd'hui, c'est un exemple pour beaucoup de jeunes judokas. On sait que les JO, hein, c'est toujours un catalyseur, que ça suscite des vocations. On le voit notamment au ping-pong aujourd'hui avec les frères Lebrun qui suscitent un engouement et il va y avoir sans doute des inscriptions dans les clubs de ping-pong. Est-ce que les dynamiques sont les mêmes sur le judo? Est-ce que vous le sentez, vous?
Ah oui, oui, de toute façon, c'est pas moi qui le sens. Hein. C'est surtout les statistiques qui se font qu'à chaque fois que le judo réussit, les licenciés augmentent. Donc c'est... Pour le judo français, c'est super. Et pour le sport français, c'est super d'avoir un ambassadeur comme Teddy, parce qu'il n'est pas ambassadeur que du judo, il est ambassadeur du sport français en général. On l'a vu avec la flamme olympique, avec Marie-Josée Pérec aussi. Donc c'est des moments qui sont importants, c'est des moments qui sont importants pour le sport, qui sont importants pour les mômes, pour le social, pour les mômes qui sont dans la rue. Donc c'est des choses qui sont... Oui, c'est vecteur de solidaire aussi, c'est important.
Alors Laurent Caléja, je le disais, vous rentrez à peine de Paris, vous avez vécu dans une sorte de bulle, hein, parce que pour préparer ces JO et accompagner les athlètes, il faut être extrêmement concentré, précis, etc. Vous rentrez dans quel état d'esprit? Vous êtes fatigué, vous êtes soulagé, vous êtes heureux, vous êtes un peu... Ouf, il est temps de se poser.
Alors pour être très honnête, je ne me suis pas posé du tout et je rentre dans un état d'esprit où bah, oui, je suis très content, je suis très heureux et tout. Et j'ai vécu, Tony Estanguet disait à l'ouverture des Jeux que c'était les Jeux de l'amour. Et donc moi, j'ai vécu les Jeux de l'amour et j'arrive dans un pays qui est déchiré. Et donc c'est compliqué pour moi, c'est compliqué pour mon entourage, pour l'association des Kimonos du Cœur aussi. Je remercie tous les bénévoles d'avoir œuvré au Kimonos du Cœur pendant mon absence. Mais moi, ouais, c'est difficile de rentrer dans un pays qui est déchiré comme ça. Donc... J'aimerais tellement que ce pays ressemble au jeu de l'amour, que ce soit un pays de l'amour demain. Donc on verra bien, je vais me poser et puis on verra.
On va garder ce message. Merci beaucoup. Merci. Laurent Caléja d'être passé dans les studios de Radio Rythme Bleu.
Merci.
C'était les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Allez, on termine évidemment par notre jeu de mémoire de jeu.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Alors, notre parrain est bien Shell, mais ce n'est pas pour la Formule 1, c'est vraiment pour cette émission de mémoire de jeu. Vous pouvez gagner, je vous le rappelle, un bon carburant de 5000 francs. Voici notre question. Aujourd'hui, en équitation, quelle personnalité politique a participé à la victoire de l'équipe de France de saut d'obstacle aux Jeux Olympiques de Montréal en 1976? S'agit-il de Jacques Chaban-Delmas? Si c'est le cas, vous envoyez JO1. Si vous pensez que c'est Gérard Larcher, vous envoyez JO2. Et si vous pensez que c'est Laurent Fabius, vous envoyez JO3 et vous envoyez votre réponse au 3146. Notre invité Laurent Caléja sèche a priori. En tout cas, vous avez jusqu'à 17h pour envoyer votre réponse. Tirage au sort parmi les bonnes réponses et nom du gagnant ce soir dans le journal.